RMC. Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 enfin dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis,
ils avaient besoin d'entendre une nouvelle Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Il est énorme, le Franck Leu. On a des jingles de l'After, mais alors, plus venu. Bravo, bravo nos producteurs. Voilà, on les cite pas suffisamment. Voilà, Quentin Barber, Paul Vexio, Daniel Torres, Alban également. Voilà.
Torres, moi.
Daniel, ouais, moi.
Daniel, c'est un statique, en plus.
C'est surtout celui qui travaille le moins bien.
Oui, en plus.
En plus, au-delà de ça. On rappelle les résultats de ce samedi. 36e journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé 2-1 face à Angers. On y revient dans quelques instants. Avec notamment Neymar et son fameux bandeau. 0-0 entre Amiens et Toulouse. 1-0 pour Nîmes face à Monaco. Un partout entre Nice et Nantes. 3-2 pour Caen face à Reims. On était en direct dans l'after il y a quelques instants avec Fabien Mercadal, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Et puis, victoire 2-1 de Dijon face à Strasbourg. Florent Balmont sera avec nous dans quelques secondes. Juste avant, Monaco qui a perdu à Nîmes ce soir, qui est 17e à égalité de points avec Caen qui est barragiste.
Monaco fait revenir Thierry Henry.
Non, 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 pas du tout. On va écouter Leonardo Jardim. Réaction d'après-match. Monaco, alors qui est 17e et juste devant le barragiste, pour un but à la différence de but par rapport à Caen. Ils ont moins 19, les Canets sont à moins 20. Réaction de Leonardo Jardim après cette défaite à Nîmes. Et après surtout, je disais quoi tout à l'heure, 7e match d'affilée sans victoire pour l'ASM.
Nous, nous continuons notre chemin de l'objectif de maintien. Bien sûr que nous avons perdu l'avantage que nous avons gagné le mois de mars. Aujourd'hui, bien sûr que Monaco dépend toujours de ses propres, de lui, et mais bien sûr que la victoire a besoin de réarriver. Nous avons un match capital déjà à la maison le prochain week-end. Mais je crois aussi que beaucoup de ces joueurs-là de notre équipe n'est pas habitué toute la vie à jouer avec cet impact-là. Et aujourd'hui, ils se regardent une situation difficile parce que beaucoup de ces joueurs sont plus joueurs de contrôler le ballon et de jouer avec un peu d'espace. Et aujourd'hui, le maintien, c'est avec la rage, l'attitude. Un peu comme Nîmes a fait, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de duels.
Voilà, la réaction donc de Leonardo Jardim après la défaite à Nîmes ce soir à 1-0. Hein.
Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, pour le coup. Dans le fond, même si c'est difficilement compréhensible.
Bon,
mais...
ça va.
Non, mais en gros...
Pendant 5 secondes, je me suis cru sur Radio Alpha. Mais...
en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il souligne le fait... Il doute de la capacité de ses joueurs à jouer le maintien, tout simplement.
C'est un peu ce qu'on a dit.
Pas... Ouais, c'est ça. Et non, mais que lui, en tant qu'entraîneur, le reconnaisse, c'est assez fort, je trouve.
Messieurs, on va passer d'un chauve à un autre. Voilà, et bon, j'aurais pu l'introduire de façon bien plus élogieuse parce que ce soir, il a disputé son 500e match de Ligue 1. Dijon s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Florent Balmont est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Florent.
Bonsoir.
Voilà. Salut Flo.
Bon, j'ai pas été très sympa dans l'intro, Flo.
Ah mais 500e match, c'est quand même hein.
Non mais bravo. Alors déjà bravo pour la victoire, bravo pour ce chiffre tout rond, Florent, 500 matchs en Ligue 1.
Bah ouais, c'est bien. Franchement, je suis très 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 fier d'arriver à faire de passer cette barre là. Après, c'est sûr que d'avoir le scénario comme ça, c'est très bien. Après, c'est sûr que j'en serais énormément voulu si par rapport à la passe que je fais en retrait et tout ça en deuxième mi-temps. Donc c'est bien de gagner pour ma 60e.
Après, donc ouais, bon, vous faites cette petite erreur pendant le match, mais il faut quand même souligner que depuis allez 5-6 matchs, vous êtes quand même sur une forme. On dirait que vous avez retrouvé vos cannes de 20 ans.
Bah franchement oui, après je pense que c'est pas mon meilleur match quand même ce soir, mais les matchs d'avant c'est vrai que depuis quelques
contre mois, Lyon notamment vous avez été énorme.
Oui oui, depuis un mois et demi, voilà, j'ai pu enchaîner les matchs, donc je suis très content. C'est vrai que ce soir ça a été moins bien. Alors est-ce que l'émotion avec plein de choses font que voilà, j'étais un peu moins bien, mais on avait quand même fait une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps largement moins bonne. Mais c'est sûr que oui, j'ai toujours la santé, j'ai toujours l'envie, et puis et c'est le plus important, hein, je crois que c'est ce qu'il faut garder. Hein.
Florent Balmont est en direct avec nous dans l'after. Alors avec cette victoire 2-1 face à Strasbourg ce soir, Dijon est donc 19e. Deux points de retard sur Caen qui est barragiste et sur Monaco qui est 17e. C'est vrai que c'est jouable hein, quand on voit d'un point de vue comptable au niveau du classement. On rappelle quand même également ce qui attend Dijon d'ici la fin de la saison. Il y a ce déplacement au Parc des Princes, il y aura beaucoup d'absents notamment du côté du PSG pour ce match. Et dernier match à domicile face à Toulouse. Comment vous abordez ces deux derniers rendez-vous justement?
Bah, c'est sûr que on l'aborde avec une grosse envie parce que de marquer dans les arrêts de jeu, on peut toujours dire que c'est des signes. Je pense que c'est vraiment des signes de marquer dans les arrêts de jeu parce que s'il y avait match nul, je pense que c'était fini. C'était fini pour nous. Donc de marquer dans les arrêts de jeu et de faire cette victoire, je pense que maintenant tout est possible jusqu'à la fin. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va aller à Paris. On va essayer de faire un très gros match, même s'il y aura des absents du côté de Paris, ça sera très compliqué. Mais voilà. À nous de faire ce qu'il faut. Et oui. Puis après, un match à Toulouse, voilà, Lyon, Caen-Rennes, il y a un Monaco-Amiens, il y a un Monaco-Nice la dernière journée, voilà, c'est... Je pense que jusqu'à la dernière minute sur la dernière journée, ça sera toujours jouable.
Vous connaissez bien le calendrier, donc vous avez bien conscience que si vous avez des chances, ça passe obligatoirement par un résultat contre le PSG.
Oui, c'est possible. Maintenant, quand ils vont à Lyon, donc bon, c'est pas gagné pour eux aussi. Ouais. Et après Monaco Amiens, on sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est sûr que ça serait bien de faire un résultat à Paris. Maintenant, bon, ça serait quand même exagéré de dire oui, on y va pour gagner à Paris quand même. Je pense que on est 19e, c'est compliqué, mais voilà,
il faut y aller pour gagner.
Oui,
il y a rien à perdre de toute façon.
Il y a rien à perdre, mais bon, ça serait compliqué quand on est 19e de dire d'aller gagner à Paris quand même.
Bien sûr.
Je pense qu'il faut quand même rester un peu sur terre en disant que bon voilà, on va faire un gros match et on verra ce qui se passera.
Et la saison est compliquée, mais vous, par rapport à l'ensemble de votre carrière, vous êtes un joueur ultra expérimenté, est-ce que c'est pas une des saisons les plus difficiles à gérer?
Elle est compliquée, oui, elle est compliquée parce que c'est sûr que par rapport à les deux saisons à Dijon où ça s'était très bien passé, même si la première année on s'était maintenu à l'avant-dernière journée, c'est vrai que cette année elle est un peu plus usante. Voilà, on a eu des défaites, on a eu 8 défaites de suite où j'avais jamais connu ça, où là c'est vrai que mentalement c'est compliqué, et voilà, c'est une saison, tout le monde le dit hein, compliquée, on s'en cache pas. Maintenant on a toujours, voilà, il y a toujours l'espoir de se maintenir et de faire les barrages, donc voilà, il faut y croire jusqu'au bout.
Alors justement, Florent Balmont, vous le dites, hein, cette saison, elle est usante. Est-ce qu'elle va user le milieu de terrain de 39 ans que vous êtes justement? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire dans quelques semaines maintenant?
Après, par rapport à ça, je dis depuis quelques temps que je veux déjà qu'on se maintienne. C'est mon objectif. Et après, on aura le temps de voir après. Mais voilà, mon objectif, il n'y a aucune discussion, il n'y a rien vu. Maintenant, je me base sur le maintien et puis on verra.
Ça vous a pas fait un peu mal le départ de Dalaglio quand même? Humainement?
Je sais pas. Après, on était aussi sur une spirale négative de son côté. Donc après, comme on dit, des fois, je pense qu'il a fait des très bonnes choses à Dijon, mais il y a une spirale aussi qui était négative. Le président a fait ce choix-là. Je pense que des fois, dans des circonstances, des fois, il faut prendre des décisions. Et après, le coach Antoine Combarek est arrivé. On a eu une bonne spirale. Et après, on a connu un creux quand même compliqué. Et là, on est un peu mieux depuis 4-5 matchs.
Tiens, et comment Florent Balmont, l'ancien Lillois et Lyonnais que vous êtes, il vit la saison, mais en haut du classement cette fois-ci. Lille qui est deuxième, Lyon qui lutte pour cette troisième place également. Vous en pensez quoi? Vous analysez ça comment, vous?
Bah, Lille, je pense que c'est tout à fait mérité qu'ils soient deuxième. Franchement, sur la saison, ils ont pas eu de trou. Franchement, je pense que de mon côté, je pensais qu'ils allaient en connaître un dans la saison. Ils en ont pas connu, donc c'est largement mérité qu'ils soient deuxième, qu'ils finissent deuxième. Et Lyon, bon, voilà, ils ont eu des hauts et des bas, comme depuis quelques années, mais ça reste quand même une grosse équipe. Moi, comme Genesio, j'apprécie cet entraîneur qui fait de bonnes choses et qui a été énormément critiqué. Donc voilà, je pense que j'espère pour eux qu'ils finiront troisième.
Donc vous êtes un défenseur de Genesio, Florent Balmont?
Ah oui. Parce que bon, je pense que c'est un entraîneur qui a des résultats, et voilà. Après, on peut reprocher qu'il ait pas gagné un titre, mais bon, je pense qu'il a toujours à chaque fois à ramener la Ligue des Champions. Il y a quand même du jeu à Lyon, donc non, voilà. Moi, je suis pour ça, oui. Je suis une personne que j'apprécie. Hein.
Tiens, on parle du retour possible ici de Juninho à l'OL en tant que directeur sportif également.
Oui, j'ai entendu ça, j'ai suivi ça. Bah, moi, j'ai joué avec lui, donc bon. Ouais. Après, oui, je pense que Il a des bonnes attaches à Lyon. Il a fait du très bon travail quand il était joueur à Lyon. Donc ça peut être une possibilité pour eux.
Florent Balbon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le match face au PSG du coup la semaine prochaine?
Après voilà, déjà qu'on fasse un très bon match. Voilà, qu'on n'ait pas le trou qu'on a eu en deuxième mi-temps ce soir et qu'on essaye de faire un gros match à Paris, qu'on n'ait pas de regrets. Voilà. Moi, c'est ce que je veux et on verra le résultat.
Est-ce que vous l'avez vu, Ludo Bragnac, là, depuis qu'il a pris sa retraite?
Il est débordé,
mais ça déborde partout aussi.
Moi, je vous le dis. Moi qui le connais bien maintenant, je vous le dis. Si pour son bien, rappelez-le et dites-lui de se remettre au sport, c'est plus possible. Moi, je vous vois à 39 ans, fit, carrément sur le terrain, Ludo, et il faut qu'il se reprenne en main.
J'ai eu des retours sur ça. Je l'ai eu la dernière fois au téléphone, j'ai eu des retours qu'il avait pris un petit peu. Qu'il fasse attention, quand même. Mais bon,
juste Florent, quand même que vous sachiez, il a fait un très bon match avec le Média FC aujourd'hui. Vous savez que le Média FC est re-champion d'ailleurs pour la troisième année de suite. L'équipe d'RMC Sport, et il a intégré l'équipe. Il a fait un bon match ce matin.
Sa présence est aléatoire. Il fait pas tous les matchs, on va dire.
Non, c'est ça qu'il choisit ses matchs. En revanche, ça a pas changé.
Hein. Matchs,
ça a pas changé, ça. On est d'accord.
Bon, on va pas dire ça.
Florent, dans le vestiaire, c'était un sale type un peu, non?
Non, il le sait, je l'apprécie beaucoup, on s'entendait super bien, donc, c'est un bon pote.
Merci beaucoup, Florent Balmont, d'avoir été avec nous. Encore bravo, merci. Bonne soirée, merci. Florent. Merci. Bonne soirée, voilà, Florent Balmont, donc, milieu de terrain Dijon, qui a joué ce soir son 500e match de Ligue 1, victoire 2-1 de Dijon face à Strasbourg. Ça va être dur, hein, quand même, pour Dijon. Ce match face au PSG la semaine prochaine, même s'il y aura beaucoup d'absents côté parisien.
Mais même, c'est le retard de points aussi. Tu vois, franchement, quand tu regardes, c'est pour ça, même si tu as trouvé ce petit jeu bête, mais le fait de juste d'essayer de faire des prévisions, mais c'est juste, ça permet de regarder le calendrier et de voir que toutes les équipes se tiennent. Mais quand même, ils ont quand même un petit retard qui me semble difficile à combler.
On va passer au Paris Saint-Germain, les gars, le prochain adversaire de Dijon, donc la semaine prochaine. Le PSG qui, cet après-midi, s'est imposé 2-1 face à Angers. Neymar qui a marqué le premier but à la 20e. Di Maria qui a marqué sur une passe D, d'ailleurs, de Neymar. Alors, match qui a été marqué par l'exclusion également de Marquinhos en toute fin de rencontre. Alors, mine 2, le PSG, gagne à nouveau, mais le PSG encaisse encore un but. 8e match d'affilée sans clean sheet pour le Paris Saint-Germain. Il était pas très content, d'ailleurs, hein, Thomas Tuchel, suite à l'exclusion de Marquinhos à l'issue de cette rencontre. Oui.
Bah justement, en fait, Thomas Tuchel qui demandait pourquoi il y a eu la double peine.
Ouais.
Moi, je peux lui répondre s'il veut.
Alors, vas-y.
Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une faute en tant que dernier défenseur, si c'est un tacle, il n'y a pas de double peine. Par contre, là, ça a été un tirage de maillot. Lorsque c'est tirage de maillot, il y a quand même double peine.
C'est l'acte d'anti-jeu caractérisé. Voilà pourquoi il l'a pris. Alors, Neymar buteur et passeur décisif. Alors, après le match, Tuchel a de nouveau été interrogé sur le possible capitanat de Neymar. Je vous lis la déclaration d'ailleurs de Thomas Tuchel en fin de match. Pour moi, il n'a pas le profil pour être un capitaine. Ouais. C'est un leader technique avec sa créativité, mais il n'est pas un capitaine avec le brassard au bras, car ce n'est pas nécessaire qu'il l'ait, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle de cette chose. On doit avoir du respect. On a Thiago et Marquinhos. Ils sont fantastiques. La question, on vous la pose. Tuchel a-t-il raison sur cette question du capitanat? On vous pose la question également. Il y a un sondage sur le compte Twitter de l'After. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous, justement, de cette question du capitaine?
Bah, juste que Neymar est le capitaine de Thiago Silva et Marquinhos en sélection brésilienne, ça tourne, mais c'est quand même lui dans les compétitions qui est le capitaine. Depuis qu'il a reçu le brassard, il a pris une autre dimension avec la sélection. Il a toujours été su se comporter comme un leader avec la sélection. On se rappelle de la Coupe du Monde 2014 où jusqu'à sa blessure où il se fait blesser, il a cette blessure au dos qui l'empêche de jouer le match contre l'Allemagne, mais jusqu'à présent, c'est lui qui porte son équipe avec la pression du public et tout. Moi, je pense que ça doit être le capitaine du Paris Saint-Germain. Je pense que lui donner le brassard, ça peut le responsabiliser. Je pense pas, parce que je pense que c'est un mec qui foncièrement aime avoir des responsabilités. Tu le sens avec le Brésil. D'avoir le brassard, ça l'a transcendé. Et je pense que typiquement, de lui donner le brassard, ça le permettrait de le concerner encore plus. Je pense pas qu'on verrait, comme on l'a dit hier avec Ludo, ces petits allers-retours parfois pour aller faire la fête à droite à gauche. Et je pense que ça permettrait au club, enfin, du moins aux joueurs, de passer un cap, le cap qui manque, qu'il n'a pas encore passé au PSG.
Kevin, est-ce que t'es d'accord avec Thomas Tuchel, toi?
Moi, je peux dire que je suis d'accord avec Thomas Tuchel, parce que je pense que tu te trompes, Jonathan, si tu penses que ça va l'empêcher de faire les allers-retours au Brésil, parce que ça fait partie de Neymar. Voilà, de toute façon,
aujourd'hui, un petit peu moins.
Ouais, je suis pas sûr. Aujourd'hui, il avait pas le brassard autour du bras, mais il l'avait autour de la tête. Hein, c'est-à-dire que Neymar, de toute façon, qu'il soit capitaine, pas capitaine, de toute façon, c'est lui le leader de cette équipe. Donc en fait, peu importe. On a souvent reproché au PSG de pas forcément avoir d'identité, pas forcément avoir de caractère. Qu'il laisse le brassard à un mec comme Marquinhos, qui depuis des années est irréprochable, qui est là depuis très longtemps, même si c'est pas son capitaine en sélection, pour moi ça me pose pas de problème. Mais de toute façon, Neymar, comme je vous ai dit, pour moi, capitaine, pas capitaine, bandeau dans les cheveux, pas bandeau dans les cheveux. C'est un joueur qui, pour moi, je le dis, je le répète, n'a rien à faire en Ligue 1. Je suis désolé pour moi, je l'adore, hein, je suis fan de Neymar. Mais on l'a vu encore cet après-midi, il est au-dessus de ce niveau-là.
Enfin, et moi, je l'ai déjà vu se balader en Liga aussi face à certaines équipes.
Non, mais là, de ce qu'il fait depuis son retour de blessure où il a joué 120 minutes contre Rennes en finale.
Moi, j'ai vu des 6-0. Mais moi, j'ai vu des 6-0, des 7-0 où il fait des coups du son verrou à des mecs.
Nico, il a joué 120 minutes en finale contre Rennes après avoir été absent pendant 4 mois. C'est énorme, 120 minutes. À la 120e, il courait comme. C'est-à-dire que pour moi, il est tellement facile, on le voit. Mais c'est magnifique de le voir. Ne me prenez pas. C'est-à-dire que c'est magnifique de le voir, mais je parle pour lui personnellement. J'ai vraiment l'impression qu'il joue dans une autre cour, qu'il a rien à faire.
T'as jamais
Ligue 1.
Eu cette sensation en Espagne?
Non.
Il y a eu des matchs. Non,
je l'ai vu Neymar se balader contre Marseille, contre peut-être à moindre mesure contre Lyon parce qu'il a été blessé et qu'il a raté quelques matchs, mais j'ai l'impression que contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, il fait ce qu'il veut.
Le sombrero, le Marseille, hein. Le il y a une année où il se fait expulser en plein droit. Il était loin de se balader. C'était la misère pour Ocampos.
Pour moi, il est tellement beau à avoir joué que j'ai l'impression que c'est gâché un peu son talent.
Vas-y, j'ai envie qu'on écoute Stéphane Moulin justement sur Neymar après. Vas-y. Là où je pense que ça serait important du Noël Brassard, c'est que t'as besoin de repartir sur quelque chose de nouveau cette année. Après tout ce qui s'est passé, tu peux pas garder les mêmes choses. Tu peux pas garder le Brassard avec Thiago Silva. Tu peux pas garder les mêmes leaders. Il faut qu'il y ait un petit peu un changement de leadership. Et je pense que ça ferait du bien au PSG parce que s'il y a bien un joueur qui ne déçoit pas dans les grands matchs, malheureusement, bon là vous allez me dire, il était blessé. Mais s'il y a bien un joueur qui a déjà prouvé dans des matchs coup près qu'il en avait entre les jambes, c'est lui. Et je pense que ça peut donner une nouvelle impulsion à l'équipe.
Tiens, on va écouter Stéphane Moulin sur Neymar. Il va un peu dans ton sens également, Kevin. En conf de presse, à l'issue de la rencontre, il a rendu hommage finalement au talent de Neymar.
C'est un joueur de classe mondiale. Voilà, il l'a prouvé. Voilà, il est capable, on le voit pas. Et puis, il est capable de faire des exploits individuels, de faire marquer un but. Bon, voilà, c'est le joueur de classe internationale qui est tout proche des tout meilleurs joueurs mondiaux. Voilà, le foot c'est un jeu, il y a des stars au PSG, les gens viennent pour voir les stars, il est là, il gagne le match pratiquement à lui tout seul, bravo, on sait qu'il est capable de faire ça. J'ai le sentiment, je sais pas pourquoi ce joueur-là est sifflé comme ça, je comprends pas bien. Les artistes, il faut les protéger. Moi, j'espère qu'il va rester en France et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont venir.
Il a raison. Là, lui, contrairement à toi, il veut qu'il reste. Hein.
Voilà, attends. Je reformule donc. Et je vais dans le sens de
il
Moulin.
Il est trop fort pour la Ligue 1.
Que je veux dire. Ouais. Et je veux dire qu'on sait pas l'apprécier. On sait pas l'apprécier en France. Il y a des gens qui te disent,
ça c'est quoi?
Ah, mais Neymar,
il
fait des roulades, il fait, c'est pas possible. Neymar, pour moi, je vous le dis, c'est le seul joueur au monde qui peut s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo. Il est incroyable dans ce qu'il fait. Moi, j'aurais eu la chance. En Coupe de France, ça aurait pu être le cas cette année en 32e de finale de Coupe de France. J'aurais eu la chance de jouer contre Neymar. Mais je te jure, Nico, je lui mets pas un coup. Je peux pas risquer de blesser une œuvre d'art. Le mec, c'est incroyable. En France, on est capable de siffler Neymar.
Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est aberrant. Après, par contre, surtout, et il y a une chose pour revenir au débat sur le capitana. Il y a une chose quand on dit qu'il faut, moi, je pense qu'il faut donner le brassard à Neymar, c'est aussi surtout parce qu'il faut le retirer à Thiago Silva. C'est plus possible.
Moi, j'ai parlé de Marquinhos.
Il l'a montré pour une énième fois, Thiago Silva, que c'était
un capitaine digne de confiance. Ça fait plusieurs fois qu'il répète, on a Thiago Silva Marquinhos, c'est la même chose, il faut le respecter, etc. Voilà.
Tu ne peux pas continuer avec Thiago Silva capitaine. Le mec, il transmet sa trouille aux autres. Le mec, il est marqué à jamais par les deux humiliations du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en étant le capitaine. Le mec, si il y avait le match contre Manchester, ça aurait duré une demi-heure de plus, il aurait fini dans le cop tellement il a joué bas.
Donc tu veux pas garder Thiago Silva au PSG?
Ah, mais c'est hors de question, mais ça fait des années que je
dis. Tu sais que dans un vestiaire, tu ne peux pas détrôner le capitaine d'une année sur l'autre, c'est soit tu le transfères, soit tu le gardes.
Mais je le dis depuis des années, il faut qu'il parte.
Il faut que ce soit clair dans l'esprit des supporters parisiens. On ne peut pas détrôner un capitaine dans un vestiaire.
Je pense que au début, ça faisait beaucoup de polémiques quand on disait que avec Thiago Silva, le PSG n'irait pas loin en Ligue des Champions. Mais là, je pense que beaucoup de gens s'en sont rendus compte.
Il a quand même fait une belle saison.
Il faut arrêter. Oui, mais dans les moments clés, il n'est pas là. C'est la même chose avec la sélection, c'est la même chose avec le Paris Saint-Germain. Dans les moments clés, il se liquéfie. Tu ne peux pas jouer comme ça, surtout quand t'es défenseur central. Donc oui, il faut changer de capitaine. Et je pense que s'il y a bien un joueur qui mérite le brassard, c'est Neymar.
Accueillons Jean, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16 et qui est supporter du PSG, mais ça je l'ai déjà dit. Ça va Jean?
Ouais, ça va et vous?
Salut Jean. Et toi Jean? Salut. Qu'est-ce que t'en penses de cette question-là? Tourelle qui dit qu'il n'a pas le profil pour être capitaine Neymar. T'es d'accord ou pas d'accord toi avec Thomas Tourelle?
Pas d'accord.
D'accord, pourquoi alors?
parce que déjà Neymar, je pense que c'est un leader.
Et oui.
Déjà. Et Neymar a prouvé que il était capable d'assumer tout ça au JO, au Brésil.
Coupe du monde 2014.
Coupe du monde 2014. Il est pas là, c'est un. Voilà. Et sinon, non. Il est capable. Et justement, il faut que lui soit capitaine pour que des, pour que l'équipe soit soit capable de faire des sacrifices.
D'accord
pour lui.
Avec toi.
Non mais je pense qu'aujourd'hui l'équipe fait déjà des sacrifices pour lui. Ses coéquipiers sont bien conscients.
Mais encore plus. Ça, c'est vrai.
Ses coéquipiers au Paris Saint-Germain sont très conscients que c'est peut-être la, comme je l'ai dit, l'un des trois meilleurs joueurs du monde et que c'est une chance de jouer avec lui. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que quand t'es capitaine, il faut savoir ce que c'est d'être capitaine. Être capitaine, c'est aller voir l'arbitre avant le match, d'accord ? C'est avoir des obligations avec les adversaires, avec le protocole. Alors, est-ce que vraiment, est-ce que Neymar est... Moi, je pense que tout seul,
petit détail
veut dire...
également qui revient souvent sur le hashtag RMC Live aussi, beaucoup disent, moi, Neymar, capitaine au PSG, pourquoi pas, mais faut qu'il parle français aussi dans ce cas-là.
Voilà,
c'est important,
ça,
la communication.
Mais c'est pour ça que, donc je parle, c'est un protocole avec les arbitres, avec les adversaires, pour pouvoir s'exprimer, si possible en français. Il faut aussi... avoir une, un certain recul par rapport aux décisions arbitrales. Je suis pas sûr que Neymar ce soit pas le premier agacé à chaque fois qu'il y a des décisions arbitrales.
Il le fait avec le Brésil.
Oui, mais avec le Brésil, t'es capitaine du Brésil. Tu vois ce que je veux dire?
T'es capitaine du Paris Saint-Germain,
capitaine du PSG avec le PSG.
Je suis pas trop d'accord avec vous.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas exactement le même statut.
La langue internationale, c'est pas le français, c'est l'anglais. Donc l'arbitre est capable de parler anglais, minimum.
Oui, surtout en Ligue des Champions.
Ouais, mais c'est un symbole après, Jean.
Minimum.
Je vous la pose à l'envers.
Ça fait deux ans qu'il est là.
On est tous d'accord, je pense, pour dire que Thiago Silva ne peut plus être capitaine.
Moi,
qui d'autre?
C'est Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain.
Ah, moi, j'ai quelques doutes encore sur Marquinhos en temps, dans sa capacité à être un vrai leader. Je pense que c'est lui aussi liquéfié dans des moments importants du Paris Saint-Germain. Il a montré aussi qu'il pouvait, qu'il était capable de disparaître. Il n'est pas irréprochable dans les matchs qu'on prend en Ligue des Champions.
Il est irréprochable, franchement.
Même Neymar, tu trouves qu'il est irréprochable sur la saison? Alors, ok, c'est pas de sa faute. Mais non, mais il est pas tout le temps là. Un capitaine, il est censé être là aussi. Ça fait partie du truc.
Je te retourne la chose à l'envers. Neymar, contrairement aux autres joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain, a montré que dans des moments couperets et dans des moments chauds, il est posé sur la table et il entraînait les autres avec lui. La remontada, c'est pas Messi, c'est pas Suarez, c'est lui. On s'en rappelle du match qui impulse le FC Barcelone pour faire la remontada au PSG. Pendant la Coupe du Monde 2014, il y a une pression de malade mental. Le Brésil se liquéfie, c'est lui à chaque fois jusqu'à sa blessure qui leur sort l'épine du pied. Dans des matchs couperets de qualification zone AM Sud, bon, tu me diras, sélection Kevin, mais pour moi c'est quand même important parce que c'est une pression qui est importante. C'est lui vraiment qui porte
cette
équipe.
Bien sûr qu'il est capable d'être capitaine.
C'est le seul, mais surtout
c'est pas ce que je te dis. Kevin,
c'est le seul joueur. C'est le seul joueur de cet effectif-là du Paris Saint-Germain qui a montré qu'il était capable de faire ça.
Mais moi, bien sûr qu'il peut être capitaine demain du Paris Saint-Germain.
C'est le seul. Surtout.
Ça me pose pas de problème à moi personnellement, et je pense que ce sera peut-être même un bon capitaine. Mais ce que veut dire Thomas Tuchel, c'est qu'il en a pas forcément besoin et qu'il en a pas forcément le profil parce qu'il y a déjà des joueurs dans cet effectif qui ont porté ce brassard. Et Thomas Tuchel, lui, en bon entraîneur. Et en bon, tu vois ce que je veux dire, en bon manager, il pense aussi comment les autres, c'est pour ça qu'il les cite à la fin de cette interview,
non, mais, ou alors,
comment les autres auraient pris cette nouvelle.
Ou alors lui, il veut pas que ce soit Neymar le capitaine.
Moi, je pense que l'équipe en a besoin. D'un leader. C'est les leaders techniques.
En soi, Jean, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que. Normalement, dans cette équipe, pour moi, il y a un seul joueur qui aurait dû être capitaine. Parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Parce qu'il était potentiellement l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Parce que il a tout, il a du caractère.
C'est Marco Verratti.
Voilà. C'est lui qui aurait dû être le capitaine du Paris Saint-Germain.
En se calmant un petit peu avec les arbitres.
À l'image de Xavi avec le Barça.
Mais en se calmant avec les arbitres un petit peu.
Mais ça l'aura peut-être obligé à se calmer un peu.
Je peux être d'accord. Verratti, je peux être d'accord.
On est d'accord qu'il a plus du tout le profil aujourd'hui, hein. J'ai dit, dans un monde idéal, c'est lui qui aurait pu être le capitaine.
Il était dessiné, bien sûr, oui. Mais... juste une dernière chose, mais faut juste se rappeler aussi d'une chose, et je pense que Tourelle le dit aussi pour ça, que l'espèce de psychodrame que ça avait fait quand Neymar avait pris le brassard au Brésil. Il y avait eu des petites tensions avec Thiago Silva. Vous vous rappelez de ça?
Non, mais d'ailleurs, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'aussi Tite avait fait tourner le brassard
au final, on sait que c'est lui.
Merci à Jean d'avoir été avec nous. Salut, juste Jean. Une petite chose également, parce que tu faisais référence tout à l'heure, on parlait du morceau de tissu sur le bras, le brassard. Il a joué aujourd'hui avec un bandana dans les cheveux, Neymar, vous savez, en mode un peu Captain Tsubasa, là. Vous savez, en mode vraiment le truc.
Pirate,
avec,
ouais.
Voilà, en mode.
C'est pas vraiment Tsubasa, mais c'est plus, L'autre capitaine, là, celui de la Flynet.
Bah, c'est Julian Ross.
Non, Callaghan.
C'est pas, non, Julian Ross, il avait pas de bandeau.
C'est un peu bandeau de sa mémoire.
C'est celui qui sont habillés en, ceux qui sont habillés en
avant de mourir, il était battré. Juste un truc, Clément Brossard est allé regarder le règlement de la FIFA. Parce que c'est vrai que pendant le match, on s'est dit, est-ce que Neymar finalement a le droit de jouer avec un bandana? Alors c'est pas chercher des polémiques à la con, c'est qu'il y a un règlement qui est fait par la FIFA, qui concerne l'équipement du footballeur, et notamment les couvre-chefs. Alors ça peut faire partie du couvre-chef. Et alors, quand on voit, voilà, l'article 4, autre équipement couvre-chef, ne doit pas avoir de partie dépassant de la surface, élément protubérant. Le problème du brassard, c'est pas qu'il a un truc dans les cheveux, parce qu'il y en a plein qui ont des trucs dans les cheveux, mais c'est le fait que derrière, le nœud, puisse dépasser, et c'est purement pour des questions de sécurité, hein. C'est pas une question de provoque ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on s'est tous posé la question en le voyant avec ça. Il suffit qu'un mec lui tire, par là, ou qu'il s'accroche. Ça, ou quoi.
Duel aérien, un truc.
Ouais, il peut s'accrocher.
Une des lanières qui passe, et qui atterrit, qui frôle l'œil d'un joueur.
Voilà, c'est Marley.
Et pourquoi? Un petit peu, ouais. Pour le coup, alors je sais qu'il s'en fiche complètement, mais Neymar, il facilite pas quand même le travail de tous les parents, de tous les éducateurs, voire de tous les arbitres de district qui vont voir arriver dans les prochaines semaines des joueurs avec des bandanas dans les cheveux. Ça va pas être facile pour eux.
Merci à Jean d'avoir été avec nous dans quelques instants. Les infos du jour, il sera question de Marseille, il sera question d'Olympique Lyonnais. Il y avait la conf de presse de Bruno Genesio aujourd'hui. Ouais. Et on va te lire du Jacques-Henri Hérault. Je pense que tu
Je l'ai lu déjà, mais
ah ouais, allez, interview à la FP.
Énerve-moi là.
Ah, ils sont pas contents.
Énerve-moi bien là.
Pas content. Pas content à J-1 du choc entre Marseille et Lyon. Ce sera demain. Ah, pas content.
Ah, mais ça va rendre fou tous les supporters marseillais encore, je pense, si c'est ce à quoi je pense.
Ah oui, petit détour par le tennis. On va retrouver Eric Salio à Madrid. Demi-finale du Masters 1000 de Madrid entre Tsitsipras et Nadal. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs.
Ouais, et c'est acharné, hein. C'est acharné, croyez-moi. On a dépassé les 2 heures de jeu. 1-7 partout. 6-4 Tsitsipras, 6-2 Nadal. Et 2 jeux partout dans la 3e manche. Le jeune grec qui ne lâche rien, même si on a le sentiment qu'il a baissé un peu en intensité. Et pour l'instant, il est vraiment au coude à coude avec l'Espagnol. Donc 2 partout, l'Espagnol est au service. Il y a 30-0 sur la mise en jeu de Rafa.
On est d'accord que si Titi passe, c'est un exploit.
Bon, ah oui, tomber, oui, c'est pas un exploit.
C'est
oui.
Excuse-moi, Eric. Juste, je vous ai pas donné le résultat du sondage sur le compte Twitter de l'After. Tourelle sur Neymar, pour moi, il n'a pas le profil pour les capitaines. Vous êtes 75% à être d'accord avec Thomas Tourelle. À savoir que Neymar ne doit pas être le capitaine du Paris Saint-Germain.
Très franco-français.
Ouais. On revient dans quelques secondes avec les infos du jour avec Kevin Diaz et Jonathan McCarthy.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan McCarthy et de Kevin Diaz. Tiens, il y a quelques instants, on faisait référence au fameux bandana avec lequel Neymar a joué face à Angers cet après-midi. Et donc, tu disais Philippe Callahan, effectivement, dans Olive et Tom, et qui joue également. Alors, de son nom originel, Hiraku Matsuyama. Hiraku Matsuyama, comme on dit en version originale, bien sûr.
Nani
Tsubasa Ozora.
C'est mieux que moi, c'est dingue. Hein.
Non, mais c'est extraordinaire, t'es souviens pas. Tu connais pas. Jonathan McCarthy. Kevin Diaz. Bien Allez. Sûr, les infos du jour, ouais.
Allez, après, balance la chope.
Moi, mon préféré, c'était, tu sais, le numéro 2, là. Le latéral qui se prenait les balles dans la gueule et tout, là.
Ben Harper.
Exactement. Ah oui, je kiffe. Les victimes de ouf et tout, mais bref. Ouais, mais il donnait tout, le mec, tu vois. Il les mettait, comme dit Jonathan McCarthy. Demain, 21h, Marseille-Lyon, Marseille 6e, qui est à 7 points de la 4e place et d'une éventuelle Europa League. Interview de Jacques-Henri Hérault à l'AFP, qui parle d'union sacrée pour le match de dimanche. Alors, c'est pas seulement ce qu'il dit, mais ça, c'est normal. Il fait le taf, il est obligé de dire ça, Jacques-Henri Hérault. Je suis extrêmement déçu de cette saison, dit-il. On a tous conscience que les résultats ne sont absolument pas à la hauteur de nos attentes, surtout avec cette équipe-là. Donc, on va en tirer les conclusions, dit-il. Franck McCourt aura l'occasion de s'exprimer à l'issue de la saison, mais il est comme moi extrêmement déçu, dit Jacques-Henri Hérault. Les joueurs ont évidemment une grande responsabilité. Ce sont eux qui sont sur le terrain et qui décident ou pas de faire passer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels. Nous afficherons dès l'année prochaine des ambitions élevées. Le président de l'OM affirme qu'il procédera à des changements importants pour rebondir et afficher un autre visage l'an prochain, dit-il.
J'en peux plus, moi.
Bah attends, t'es jamais content. Le mec t'annonce qu'il va y avoir du changement, qu'il est pas content, t'es pas
mais
content.
Mais parce qu'il a un diagnostic qui est très mauvais de la situation. Il pointe du doigt les joueurs. Je veux bien, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mais qui a prolongé Rudy Garcia au mois d'octobre? Qui? C'est lui. Qui a fait des déclarations qui avait ni queue ni tête? C'est lui. Qui a donné le pouvoir du sportif à Rudy Garcia sur le mercato d'été? C'est lui. Qui s'est entêté à vouloir à tout prix, même s'il a marqué ses buts, mais à vouloir à tout prix travailler sur le dossier Mario Balotelli, alors qu'il y avait d'autres priorités, il me semble, dans cet effectif-là, ou du moins d'autres postes renforcés, mais qui a consacré toute son énergie à Balotelli? C'est lui. Et ce qui me fait marrer, c'est que quand il dit qu'il est très déçu et que McCourt est très déçu, il oublie de préciser une chose. C'est que McCourt, il est aussi très déçu de Jacques-Henri Hérault. Et comment ça se rend compte qu'il y a un vrai rejet de la part du public marseillais, non pas juste envers Rudy Garcia, mais envers Jacques-Henri Hérault, parce qu'il faut bien qu'ils se rendent compte d'une chose, c'est que les supporters marseillais actuellement, ils sont, alors ok, ils l'ont un petit peu mauvaise avec certains joueurs de l'effectif, ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a bien deux coupables au même seuil de responsabilité aux yeux des Marseillais, c'est Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault. Alors qu'il commence par se remettre en question, et en espérant que quand il part de grands changements, les grands changements, ce soit aussi lui, et qu'il laisse sa place à quelqu'un qui connaît le football, qui connaisse le contexte marseillais, et puis que lui retourne vers ses vers très bien,
mais Jonathan,
qu'il ne pas présent l'Olympique de Marseille.
Quand il dit, on va en tirer les conclusions, il y aura des changements importants pour rebondir, etc., peut-être qu'il parle de lui aussi,
mais
t'en sais rien.
Mais là où j'ai du mal à accepter ça, c'est que c'est quand même un président de l'Olympique de Marseille, qui a eu 200 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts.
Mais ça 200 millions d'euros. En train de te dire. Il est en train de te dire qu'il va y avoir des changements importants. Et mais qui te dit
ok, alors mon Nicolas, je t'adore, mais là donc quand tu lis ça, est-ce que toi tu dis ah oui, mais s'il faut, le mec il nous dit qu'il va se démissionner tout seul.
Non, pas démissionner tout seul.
Ou qu'il va se faire démissionner.
Il est en train de te dire que Franck Macourt, il aura l'occasion de s'exprimer. Bah Macourt, en gros, c'est lui qui paye. Hein.
Mon pote, lis tout l'entretien, ouais. Et tu verras que lui il se voit bien encore à la tête de l'Olympique de Marseille l'année prochaine.
Jonathan, ça monte vite dès qu'on parle de l'OM.
Là, c'est-à-dire que le bleu devient rouge.
C'est la passion.
Le bleu, le sable bleu dans les verres.
On va dire que là j'étais même calme par rapport aux fois, mais
ouais, non mais
plus d'énergie pour parler de Jacques-Henri Hérault.
Non mais après c'est le problème de mettre un président. Moi j'ai rien contre Jacques-Henri Hérault, mais c'est le problème de mettre un président qui connaît pas du tout le football.
Et surtout à la tête d'un club si particulier comme l'Olympique de Marseille.
Bien sûr, je pense qu'il va falloir vraiment que les clubs français, que l'OM notamment, se penchent, ou que Franck Macourt se penche vers ce qui marche, ou en tout cas ce qui marche de plus en plus dans les clubs européens. C'est-à-dire, on l'a vu à Rennes par exemple. Parce que les temps, on aime, on n'aime pas, c'est quand même un ancien joueur de football. Il y a à Strasbourg avec Keller. Alors on me dira, il n'a pas réussi à Monaco, en tout cas.
Ah mais attends, là où tu te trompes, Kevin. Non mais là tu parles pas de président. Le problème c'est que
Jacques-Henri.
Ouais, déjà, mais là, ça commence par là. Mais Keller, les temps, c'est pas les mêmes rôles. Jacques-Henri Hérault, en fait, le problème c'est que je pense qu'il ferait il pourrait faire éventuellement. Et je mets beaucoup de si et beaucoup de guillemets, mais je pense que potentiellement il pourrait être un bon président de l'Olympique de Marseille, à la condition sine qua non, à la condition essentielle qu'il ne se mêle mais pas du tout du sportif. Et c'est ça le problème.
Non, mais attends,
c'est qu'il a fait des choses bien l'OM en plus.
Non, mais il a fait des choses bien. Sportif, c'est pas lui qui recrute les joueurs.
Mais bien sûr que si.
C'est Jacques-Henri Hérault qui recrute les joueurs.
Jacques-Henri Hérault l'a expliqué. Il a dit, il y a un triumvirat qui s'occupe de prendre les décisions pour l'équipe première sur le côté sportif. C'est Rudy Garcia, Anthony Zubizarreta et moi-même. Juste que lui se mette dans le cercle de décision, c'est quand même le signe qu'on marche
à la tête. C'est normal,
une dernière chose.
Attends, laisse-moi finir.
C'est lui qui a quand même arbitré entre Zubizarreta et Rudy Garcia.
Mais c'est la même chose.
Et c'est lui qui a donné les pleins pouvoirs à Rudy Garcia. Et c'est lui qui a nommé un directeur sportif qui ne sert à rien.
Mais
c'est quand même aberrant. Il se mêle. Et Balotelli, c'est lui qui l'a fait.
Je te parlais.
On peut plus l'arrêter. Avec Marseille, on peut plus l'arrêter.
C'est terrible.
Laisse-moi finir. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu as quelqu'un à la tête d'un club comme l'OM qui ne connaît pas le football, qu'est-ce qu'il va faire? Il prolonge un entraîneur. Qui est-ce qui fait les choix sur le terrain? C'est pas Zubizarreta. Qui est-ce qui choisit un 4-3-3, un 4-4-2 ou un 3-5-2? C'est pas Zubizarreta.
Mercato.
Laisse-moi finir.
L'entraîneur,
qui est-ce qui fait les choix? Qui est-ce qui fait les choix?
Non, mais normalement, c'est le directeur sportif qui nomme un entraîneur et qui.
Non, mais ça n'a pas été le cas.
Le PSG, c'est le même problème.
Ben, on est d'accord, mais c'est pour ça que le PSG marche aussi sur la tête.
Parce que Nasser Al-Khelaifi ne connaît rien au football.
On est d'accord, mais ça.
Voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, dans un club qui a des ambitions, dans un club de très haut niveau, le directeur du club, tu verras jamais le président d'une grande entreprise française ne rien connaître ou.
Ah mais ça, je te rejoins à 10 000%.
Voilà. Donc c'est bien ce que je te dis. À partir du moment où Jacques-Henri Hérault connaît rien au foot ou pas grand chose, lui, il remet tout dans les mains de son entraîneur parce qu'il se dit, l'entraîneur, c'est lui qui fait l'équipe, oui, c'est lui qui fait la compo. Alors, attends. Donc c'est lui qui va faire le recrutement. Et Zubizarreta, même s'il lui dit à l'oreille, oui, mais tu sais, ce joueur,
Mais normalement, lui, c'est le directeur sportif.
Oui, mais là où je vais dans donc, le sens, c'est l'organisation qui va pas.
Exactement. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ah oui, finalement, tous les deux, vous êtes aussi d'accord. En fait, ce que dit Jonathan et ce qui est un peu aberrant. Mais d'ailleurs, je parlais du Paris Saint-Germain.
Mais
c'est la même aberration également aussi.
Totalement.
C'est que t'as un directeur sportif qui est pas forcément en osmose avec son entraîneur et t'arrives à des situations, bah, où les résultats sportifs ne suivent pas.
De toute façon,
comme
c'est
par hasard, quoi, finalement.
C'est simple.
Lille avec Bielsa Campos, ça fonctionnait pas. Regardez Bielsa, Campos Galtier, c'est pas du tout la même histoire.
Le directeur sportif doit être en charge de la politique sportive de l'équipe première. Point barre. C'est lui qui doit nommer l'entraîneur. C'est lui qui doit avoir une vision sur le moyen terme pour recruter des joueurs, pour former un effectif, pour se dire là, on va acheter des joueurs qui ont un potentiel de revente, là, on va prendre des joueurs d'expérience parce qu'il faut aussi qu'on ait des résultats à court terme. Mais je pense aussi à 2-3 saisons avec les fins de contrat, etc.
Donc,
il doit gérer tout le sportif et le président ne doit pas s'en mêler du tout. Du tout. Et là, tu sais, ce qui m'énerve le plus, c'est que je pense qu'Anthony Zubizarreta, c'est quelqu'un qui est très compétent. Et que l'attelage pourrait marcher. Mais Jacques-Henri Hérault, T'as bien raison, il ne connaît rien au football et il a aussi commis sa plus grosse erreur, c'est d'avoir commis un péché d'orgueil extraordinaire et de croire qu'il pouvait tout gérer dans ce club-là.
Donc de toute façon, pour finir, je pense qu'il faudrait que Franck McCourt
le vire.
Nomme. Ou en tout cas, le vire ou le nomme directeur, non pas général, non pas président, directeur administratif.
Artistique.
Non, directeur administratif. Voilà, pour tout
mais
ce qui
est... Mais même ça, il l'a fait avec en redécorant les couloirs du Vélodrome.
Non, mais voilà.
Tu sais quoi,
ça, c'est raison, ça compte, hein.
Ça, c'est le directeur
administratif.
C'est dégueulasse
qu'il a fait. Écoute, oui, mais ça compte.
Ça, c'est, mais on est d'accord. Ça, c'est le directeur administratif qui va gérer le marketing, tout ce qui est extra sportif. Et ensuite, pour le sportif, on laisse Zubizarreta se débrouiller avec Garcia, mais il faudrait que pour ça, il s'entende. C'est pas forcément le cas.
Un mot sur l'OL tout de même. Alors, juste vous dire que Thauvin serait dans le groupe marseillais. Du côté de l'OL, Denayer est touché au ménisque, il est pas là. Tété est touché à la cheville, en torse, il est absent également. Alors, ce sera soit Marçal, soit Morel en défense. Il a pas voulu le révéler d'ailleurs en conf de presse, Bruno Genesio. Alors, il a été amené à commenter les performances défensives de l'OL cette saison. 45 buts encaissés en 35 journées. Imagine. L'entraîneur lyonnais, veut-il encore changer ça ou a-t-il renoncé?
Pas renoncer, parce que dans notre métier, il faut jamais renoncer, mais on est 10e défense du championnat. C'est carrément miraculeux d'être 3e en ayant la 10e défense. Lorsqu'on regarde tous les classements finaux des 4 championnats ou 4 ou 5 championnats majeurs, ceux qui constituent le podium sont souvent les équipes qui sont dans les meilleures défenses. Donc ça prouve qu'on a quand même un potentiel offensif qui nous permet de prendre beaucoup de points malgré le nombre de buts qu'on encaisse. Mais je pense qu'il faudra, en tous les cas pour la saison prochaine, mais ça c'est pas moi qui en décidera, se pencher sur la nécessité d'avoir un groupe constitué de manière beaucoup plus équilibrée.
Ouais. C'est intéressant ce qu'il dit, Genesio.
Ouais, voilà, moi je vais te dire pourquoi je trouve ça très intéressant. Et là où il se trompe, c'est que pour moi défendre, c'est aussi avoir le ballon. Et lorsqu'on reproche à Genesio et à son équipe de ne pas avoir de fond de jeu, c'est pas forcément d'avoir des attaques placées, d'avoir voilà des cheminements reconnus et reconnaissables. C'est aussi que son équipe elle fait pas preuve de maîtrise quand elle a le ballon. C'est-à-dire qu'elle perd trop rapidement le ballon. Et cette équipe lyonnaise, on a l'impression qu'elle subit des fois des vagues parce qu'elle perd trop vite le ballon, parce qu'elle ne dégage pas assez de maîtrise collective dans la possession. Et c'est ça aussi qu'on reproche à Genesio et à son équipe.
C'est les deux, Kevin, parce que même si Denayer a quand même fait une saison qui est satisfaisante, à côté de lui, il y a un trou. T'as Marcelo qui a quand même, il y a Lyon a pris pas mal de buts aussi sur beaucoup d'erreurs individuelles du fait que t'as Marcelo qui a sa semi-remorque accrochée au derrière et puis que tu vois s'il y en a un des deux qui se pète ou qui est suspendu, c'est quand même Marçal qui a fait ses preuves dans une défense à 3 mais qui reste quand même un latéral de métier. T'as Jérémy Morel qui est plus sur la fin et ils en sont même arrivés à parfois faire jouer Kenny Tété en défense centrale. Donc je pense aussi que c'est ce que tu dis, mais il y a aussi un
problème dans
l'effectif.
C'est un peu des deux.
Et Lucas Touzard aussi, qui a fait une saison qui est loin d'être exemplaire. Et c'est à lui de protéger cette défense-là.
Et puis, vous l'avez écouté également, hein, Genesio, qui a rappelé que la saison prochaine, il serait plus là en tant qu'entraîneur. Il a aussi commenté le possible retour de Juninho à l'OL, alors qu'on annonce en tant que directeur sportif la saison prochaine.
Je pense que Juninho a tout pour réussir au poste de directeur sportif, parce que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du club, du fonctionnement du club, qui a une grande connaissance du football, qui est très intelligent. Voilà, donc ça ne peut être que bénéfique si il s'avère qu'il soit là l'année prochaine. Maintenant, j'ai pas d'infos autres que celles que vous me donnez.
Après, il y a un problème en France aujourd'hui quand même. C'est ce poste de directeur sportif. Est-ce que tu peux me citer le directeur sportif de Chelsea ou d'Arsenal ou de Tottenham?
Après, tu sais qu'en Angleterre...
Ou de Manchester United.
Non, mais attends. En Angleterre, t'as souvent le manager...
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, en France...
D'ailleurs, tu l'as... t'en as... Enfin, à United, il est au-delà de ça. C'est Woodward, là.
Non, mais voilà. Mais lui, c'est carrément... C'est le directeur général.
C'est le DG, ouais.
Je pense qu'en France, il faut qu'on arrête avec ce directeur sportif. L'entraîneur, il a les clés.
Ça marche, hein.
Ah, où?
Bah, regarde, Lille, par exemple, on en parlait tout à l'heure.
Mais Lille, c'est plus presque un recruteur qu'un directeur.
Mais t'as raison, mais après, c'est culturel. Mais c'est culturel en Angleterre.
Ça marche à la condition que
t'as en Espagne, il n'y en a pas non plus.
Ça marche quand t'as un top coach. Ça marche quand t'as un top coach. Ça. T'as un top coach qui va avoir des résultats, tu sais que ça va rouler, que tu vas garder sur 4-5 ans. Mais si tu veux construire un club, si tu veux démarrer un projet à l'instar de l'Olympique de Marseille,
parce que c'est un président qui aurait
dit c'est Biggie Richtstein là.
Quand on parle de clubs français qui sont pas au même niveau de développement que les clubs en Angleterre que tu as cités, qui sont des clubs qui sont moins matures.
Ouais, mais ça je suis pas d'accord. Pour moi c'est culturel.
Laisse-moi finir, que tu n'es pas capable d'attirer, ou du moins que tu n'as pas les moyens pour attirer un top entraîneur comme ces clubs-là sont capables de le faire. Je pense avoir un directeur sportif, c'est un garde-fou. pardon, c'est un garde-fou. Attends, non. Laisse-moi finir. C'est un garde-fou parce qu'il est garant.
City parce que Bigerichstein,
c'est un garde-fou parce qu'il est garant.
Mais justement, c'est lui qui le fait venir. Voilà. Donc ça sert.
Avoir un directeur sportif, c'est un garde-fou parce qu'il est garant de la politique sportive d'un club sur le moyen terme. Non. Alors qu'un entraîneur, on sait que c'est quand même une variable d'ajustement.
Ça fait beaucoup de choses. Jonathan, si tu as un président, comme moi j'ai dit, comme ça se passe au Bayern, comme ça se passe à l'Ajax ou dans d'autres clubs, quand tu as un président qui a des notions footballistiques et qui connaît le football, t'as pas besoin de directeur sportif. C'est juste que nous en France, on s'est mis dans la tête que les présidents, oui, en tout cas quand ils viennent, je parle pas du président qui amène son argent. Parce que je peux te dire que toute personne qui connaît le football ne mettra jamais son argent dans le
foot. Tu fais des généralités là, parce que
ce que j'ai dit, c'est important.
Oui, mais tu fais des généralités.
Toute personne qui connaît le football ne mettra jamais son argent dans le foot.
Ouais, ça, mais t'as raison. Mais tous les clubs, tous les clubs ne sont pas au même niveau de développement. Tu me parles de clubs anglais qui sont dans un stade de maturité financière, de stade de maturité commerciale, un stade de maturité tout ce que tu veux, beaucoup plus avancé. Là, on parle de clubs en France qui sont dans d'autres phases de développement. Tu parlais de Lille, qui était un très bon exemple avec Campos, mais Campos est arrivé parce qu'il y a eu un nouvel actionnaire, un nouveau projet qui a démarré. Il est primordial pour le projet. À Monaco, ouais, le directeur sportif a été primordial.
Directeur sportif.
Mais oui, non, mais à Monaco, les directeurs sportifs ont été primordiaux pour le développement de l'AS Monaco qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'avoir un bon directeur sportif quand tu démarres avec un nouvel actionnaire, c'est fondamental.
Ils ont été primordiaux aussi au moment où ça a coulé à Monaco.
Ce serait un sujet d'after. Un jour, il faudrait qu'on se pose la question de l'utilité des directeurs sportifs dans le football moderne.
Eric Salio est à Madrid pour les demi du Masters 1000 de Madrid entre Tsitsipas et Nadal. On en est où, Eric, alors?
4-2 Tsitsipas dans le troisième et dernier set. On tient peut-être là une nouvelle sensation sur la saison sur terre battue, puisque Rafa Nadal, je le rappelle, a perdu très tôt à Montecal, perdu très tôt, en demi quand même, à Barcelone. Et là, il va peut-être trouver son maître, Tsitsipas, qui est en flou actuellement, 4-2, 40-1 sur la mise en jeu de l'Espagnol. Il va falloir que Rafa soit très costaud, parce qu'en face, eh bien, c'est la jeunesse Tsitsipas. Il rentre gaiement dans la balle et il fait très très mal, il fait beaucoup de dégâts dans la défense de Nadal. Donc 4-2 au troisième pour Tsitsipas, 40-1 sur la mise en jeu de l'Espagnol.
Il est sympa son look, on dirait Guga un peu. Bandeau dans les cheveux, tiens, justement, on en parlait tout à l'heure, cheveux longs. Voilà, crinière blonde.
Il se laisse pousser les cheveux depuis 3-4 mois et ça lui va bien.
C'est vrai.
Ça plaît aux femmes.
Dit-il d'un flegme tennisien.
Il a des infos.
Oui, bah attends, Eric Salio, mon pote. Si tu crois, toi. On revient dans quelques instants avec David Lortolari et Julien Laurence. On va évoquer la Bundesliga et la Première Ligue. Demain, ce sera la dernière journée de Première Ligue que vous suivrez sur RMC Sport. Et puis la Bully, où le Bayern a fait match nul et où Dortmund s'est imposé. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Kevin Diaz et Jonathan McCarty, Jean Bafou sont avec nous également. Vous êtes avec nous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On va parler de Bundesliga avec cet après-midi le match nul entre le RB Leipzig 0-0 et le Bayern. La victoire de Dortmund 3-2 face au Fortuna Düsseldorf. Le match nul un partout entre le Bayern Leverkusen et Schalke 04. Nuremberg-Gladbach, victoire 4-0 de Gladbach au classement. Le Bayern est Ligue 2 avec 2 points d'avance sur Dortmund. David Lortolari est bien entendu avec nous. Bonsoir David.
Allô Freunde, salut à tous.
Salut David.
Bon bah c'est plié.
Salut David.
Ah bah non.
Toi t'y crois toi pour la dernière là.
Ben non, mais si tu bafouilles Nicolas Villa, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que cette Bundesliga est forte en émotion cette saison. Non, on est gâté en Allemagne parce que on avait repéré, tu viens de donner les scores, on avait repéré ce match-là en début de saison, avant-dernière journée, déplacement du Bayern à Leipzig, et on s'était dit ça peut être le piège parfait. 0-0 finalement, le Bayern a bien résisté, mais il a perdu quand même 2 points contre Dortmund, il reste une ultime journée.
Avec 2 belles affiches pour Dortmund et le Bayern.
Oui, exactement. Le Bayern qui va rencontrer l'Eintracht Francfort.
Ouais.
Oui, qui est quand même la belle surprise de la saison. Hein, le Borussia Dortmund, lui, jouera contre l'autre Borussia, Mönchengladbach. Donc c'est vraiment une dernière journée qui nous gâte aussi. Et aujourd'hui, c'est à peu près conforme à ce qu'on a vécu ces derniers temps. Le rapport de force, globalement, si on veut synthétiser les deux matchs rapidement, 0-0 pour le Bayern à Leipzig, c'est compréhensible. Il y a eu 2-3 belles occasions quand même pour le Bayern, et du coup, il y avait des regrets, notamment de la part de l'entraîneur Niko Kovac à la fin du match, parce que le Bayern aurait pu plier l'affaire aujourd'hui quand même. Ça n'a pas été fait. Ouais. La défense de Leipzig, qui est la meilleure d'Allemagne, a bien tenu aujourd'hui. Et de l'autre côté, dans l'autre match, eh ben Dortmund a dû s'employer très dur parce que Dortmund c'est plus laborieux en cette fin de saison que ça n'était à l'automne 2018 quand l'équipe marchait sur l'eau, souvenez-vous. Et en face, il y avait Düsseldorf qui est une équipe, l'une des belles surprises de deuxième partie de tableau de la saison, avec un entraîneur, Friedel Funkel, dont je parle régulièrement, qui a fait monter des équipes 7 fois dans sa carrière d'entraîneur de D2.
Il est furlaniste aussi.
Il est Vitor Oliver.
Oui, non mais c'est vrai, mais du coup, cette équipe étant libérée des soucis d'une éventuelle relégation, est une menace pour n'importe qui. Et Dortmund a failli en faire les frais aujourd'hui. Victoire 3-2, compliquée. Mais du coup, pour en revenir à ta question initiale, Nicolas, c'est pas tout à fait terminé.
Non, je te charrie, c'est loin d'être fait.
David, sur la dernière journée, comment c'est un peu vu en Allemagne justement? Est-ce que les autres clubs, par exemple comme Francfort, préféraient voir le Bayern, préféraient voir Dortmund? Comment est-ce que les plus petits clubs ou les clubs moins huppés voient cette lutte entre les deux grands?
Alors, réponse très précise cette saison, Kevin, c'est que on est très content et très soulagé en Allemagne que le Bayern ait été embêté jusqu'au bout. Donc, à la limite, même si le Bayern réussissait un septième titre consécutif, ce qui évidemment n'a jamais été fait dans l'histoire de ce championnat, ce serait avalé, ce serait digéré correctement par l'Allemagne du football parce qu'il y a eu bagarre. Alors que dans certaines des dernières saisons, il y avait des fois 10, 15 points d'avance.
Mais les supporters de Francfort, tu penses qu'ils...
Ah bah les supporters de Francfort,
surtout Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort ont en gros à jouer aussi sur la dernière journée.
Mais c'est vrai qu'au-delà de la course au titre, il y a la course à la quatrième place qualificative pour la Champions. Donc t'as Gladbach quatrième, 55 points. Le Bayer Leverkusen cinquième, donc 55. Hors Ligue des Champions, 55. L'Eintracht sixième, 54. Wolfsburg qui est septième avec 52 points, mais bon, à la différence de but, c'est quasiment mort pour Wolfsburg. Mais c'est assez énorme également cette course à la Champions.
Francfort peut se qualifier encore en Ligue des Champions.
Oui. Alors, mais c'est ça qui a été très bien cette saison en Bundesliga, c'est qu'il y avait vraiment trois étages d'intérêt. La lutte pour le titre. Dortmund avait 9 points d'avance, il s'est fait rattraper. Maintenant, c'est lui qui doit courir après les points. La deuxième lutte, c'est les places en Ligue des Champions. On sait qu'il y en a 4 automatiquement qualificatives en Allemagne. Et puis il y avait aussi la lutte en bas de classement. Et ça s'est réglé ce week-end. D'ailleurs, j'en dis un mot très vite. Stuttgart s'est sauvé et Hanovre et j'oublie la dernière équipe.
Nuremberg.
C'est sauvé. Il joue le barrage.
Le Stuttgart.
Stuttgart joue le barrage, mais les deux autres descendent directement. Et habituellement, c'est quand même souvent le club de première division qui passe en barrage. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a eu du suspense jusqu'à la fin aussi en bas. Mais c'est vrai, la lutte pour la Ligue des Champions, c'est ça qui a fait beaucoup d'intérêt en Allemagne aussi cette saison, parce que c'est des gros clubs. Vous les avez cités à l'instant, Leverkusen s'est redressé en fin de championnat, Wolfsburg aussi. Et puis, ces clubs ont quasiment tous, ou en tout cas plusieurs d'entre eux, eu à subir un changement d'entraîneur en cours de saison. Et on sait que souvent, statistiquement, c'est pas prouvé que le changement d'entraîneur apporte quelque chose. À Leverkusen, ça a clairement apporté quelque chose. À Wolfsburg, ça a beaucoup tangué aussi, et ça a été intéressant. Et Mönchengladbach, qui lui a longtemps gardé son entraîneur, eh bien, a flanché. Donc vraiment, c'est suspense total à ce niveau-là. Et pour répondre à la question de Kevin aussi, ça fait très plaisir à l'Allemagne du football, qui est une Allemagne très fédéraliste, avec des bastions un peu partout dans le pays. Ça fait très plaisir qu'il y ait toutes ces places fortes qui se battent pour les qualifications européennes.
David, un jour, il faudrait que tu nous fasses, alors peut-être tu l'as déjà fait d'ailleurs, mais un petit focus quand même sur le travail de Peter Bosz avec cette équipe... Depuis qu'il est là, alors au début il a un peu eu des difficultés, mais ça fait quelques mois maintenant qu'ils sont bien.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il venait des Pays-Bas, bien sûr, comme tu sais, et comme nos auditeurs le savent aussi, parce qu'il est passé par Dortmund. Il y a eu une petite lune de miel avec Dortmund qui a pas duré longtemps. Et finalement, il est parti un peu la queue entre les jambes, la tête basse, si je puis dire, Peter Bosz. Et là, il est revenu dans un contexte qui lui était favorable, parce qu'à Leverkusen,
super équipe.
Mais oui, c'est ça.
Aranguiz, Brandt, Alario, Volland, il y a quand même des super joueurs à la base.
Jeune Kai Havertz. Ouais. En fait, il dispose d'une armada, d'une batterie de joueurs offensifs qu'il fait jouer. On sent que sur son banc, il s'épanouit aussi Peter Bosz avec cette équipe. Et c'est parce qu'il a les joueurs offensifs.
Et Charles Aranguiz, qu'est-ce qu'il est beau à avoir joué. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, quoi.
C'est la troisième attaque de Bully. La troisième attaque de Bully, c'est Hoffenheim qui est huitième.
Ouais. Tu penses que c'est possible qu'il est dans un club un peu plus huppé en Allemagne, à Aranguiz?
Oui, c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs,
il a 30 ans déjà. Hein, il le mériterait.
Il y a des transferts qui se font et qui étonnent un peu le reste de l'Europe des fois parce qu'on se dit tiens, tel joueur qui est transféré d'Offenheim à Leverkusen, ça semble pas tellement une progression. Ou par exemple, quand Nagelsmann signe l'entraîneur d'Offenheim pour aller à Leipzig, on se dit tiens, c'est pas forcément une progression. Mais si en Allemagne, si parce qu'il y a déjà des moyens financiers qui sont un peu différents selon les clubs. Et puis aussi parce que, on en revient à ce qu'on disait il y a deux minutes, c'est-à-dire viser une place qualificative pour la Ligue des Champions, c'est quand même le Graal, quoi.
Merci beaucoup, David. Bonne nuit à toi, David.
Merci,
voilà,
messieurs.
Dernière journée, ce sera samedi prochain. Donc, Gladbach de Dortmund et Bayern Eintracht.
Salut, messieurs. Bonne nuit.
Salut. Ciao, mon David. On va aller retrouver Eric Salio. Petit détour par Madrid. Tsitsipas face à Nadal. Nadal qui galère, Eric Salio.
Alors, c'est énorme ce qui se passe actuellement sur le central. 5 jeux à 3, Tsitsipas et 30 à sur la mise en jeu de Rafa Nadal, donc il est à 2 points de la défaite devant ses supporters, à 2 points d'une nouvelle contre-performance sur terre battue. Croyez-moi, ça va faire du bruit évidemment, mais attention, encore 2 points, et ce sont les plus durs à faire pour Stéphane Tsitsipas, qui tout à l'heure a servi à 5-2. Il s'est un petit peu troué, faut le dire, c'est normal, il y avait beaucoup de nervosité, mais là il va peut-être se procurer sa première balle de match. On va suivre ce point si vous avez le temps.
Vas-y Eric, ouais.
C'est important là, 30A, Nadal qui prend tout son temps, donc il sert à 5-3, 30A, il sert sur le revers de Tsitsipas, il appuie, oh là, filet, balle de match, oh là là, c'est une énorme faute de Rafa Nadal, il a voulu faire mal à Tsitsipas, il a pris la bande et la balle n'a pas franchi le bon côté du filet, donc balle de match pour Stefanos Tsitsipas, nouveau séisme peut-être en perspective pour Rafael Nadal après sa défaite à Monte Carlo face à Fabio Fognini, après sa contre-performance à Barcelone face à Dominic Thiem, défaite en 2-7 en demi-finale. Il va peut-être encore rater une nouvelle marche face à un jeune aux dents très longues, 20 ans seulement, un futur grand, c'est une évidence, mais on ne le pensait pas capable peut-être de battre Rafa Nadal tout de suite. Voilà, c'est parti, retour revers tranquillement de Tsitsipas qui attend, qui patiente, il boise, mais ça reste dans le coup, il a de la chance. Tsitsipas, mais là il joue court, peut-être que Nadal va l'attaquer, non, ça temporise, Nadal qui n'ose pas y aller, il y va, et bien joué, un revers long de ligne de Nadal, il sauve cette première balle de match, il y est allé, même s'il y a eu quelques hésitations durant l'échange, et Tsitsipas là, il a joué tellement court qu'il s'est fait prendre, donc balle de match sauvée par Rafa Nadal, 40A.
On vient nous voir dès que c'est plié, Eric. On accueille Julien Laurence pour la Première Ligue et l'Angleterre. Demain, il y aura la dernière journée de PL. Et le titre va se décider demain. Il y aura Brighton, Manchester City, Liverpool, Wolverhampton. Bonsoir, Julien.
Salut, Nico. Salut à tous.
L'homme qui va devoir appeler le CTLM pour payer à bouffer à tout le monde, quoi.
Eh ouais.
Bah je cherche effectivement un restaurant qui puisse accommoder 500 000 personnes. Pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu de mal, donc les auditeurs prenez patience.
Non mais on habite à Paris, on va se trouver, nous t'inquiète pas. On rappelle que Julien Laurence avait promis de payer un resto à tous les auditeurs de l'After et à toute la team s'il y avait 4 clubs anglais en finale de Coupe d'Europe.
Non mais surtout, il est pas à Paris, c'est à nous de le trouver, on va réserver, t'inquiète pas mon Julien. T'inquiète pas.
Merci Joe, merci. Merci.
Donne-nous juste une carte bleue et puis on imagine
Julien que, alors au-delà de ce resto que tu dois à tout le monde en Angleterre, tout le monde parle que de ça, demain la dernière journée de Première Ligue et ce mano à mano qui se poursuit cette saison complètement dingue, de City qui est leader pour l'instant et de Liverpool qui fait une saison dingue également.
Mais effectivement, ouais, le dénouement incroyable de cette saison, incroyable, et avec tout ce qui s'est passé cette semaine ici en Angleterre, tout le monde pense qu'il va y avoir quelque part un moment, que ce soit à Anfield lors de Liverpool-Wolverhampton, à l'Amex Stadium pendant Brighton-Manchester City, mais qu'il va se passer encore quelque chose. C'est pas possible que la semaine se termine de manière banale, en fait. C'est ce que les Anglais disent ici, après tout ce qu'on a vécu mardi soir, mercredi soir, voire même jeudi soir avec les tirs au but à Chelsea. C'est pas possible que demain, dimanche, ce soit une journée normale où City s'impose largement, ou alors que Liverpool s'impose aussi largement. Mais on pense, tout le monde ici pense qu'il va se passer quelque chose d'un peu spécial. On verra on verra de quel côté, on verra comment. Ou alors ce sera peut-être aussi une après-midi plutôt tranquille. Mais c'est vrai que cette dernière journée mérite d'être à la hauteur de cette saison assez incroyable pour Liverpool et Manchester City qui toute l'année se sont battus mano à mano à un moment début janvier, le 3 janvier avant le gros choc entre les deux équipes à l'Etihad. Il y avait 7 points d'avance pour Liverpool. Aujourd'hui, ils ont un point de retard avant le match de demain. On verra ce qui se passera sur les 90 dernières minutes, mais ça pourrait encore se jouer peut-être à la dernière minute, à la dernière seconde.
T'as un prono ? Mouille-toi un peu.
Je pense que Manchester City, on me racontait encore tout à l'heure qu'à Brighton, les joueurs ont beaucoup fait la fête cette semaine. Eux qui sont maintenant sûrs d'évoluer encore en Première Ligue la saison prochaine, ils ont plus rien à jouer à part l'honneur et la fierté de jouer ce dernier match à domicile et de forcément de vouloir bien faire devant les supporters. Mais Mais j'ai du mal à croire que City lâche des points demain dans un match pareil. Ils ont été tellement forts depuis le mois de janvier, même s'il y a eu cette déception en Ligue des Champions contre Tottenham, encore une fois dans un match incroyable à l'Etihad Stadium dans les dernières minutes. Mais ils ont été tellement forts collectivement, mais aussi individuellement. Ils ont une telle baraka depuis le but incroyable de Compagnie lundi soir contre Leicester que je vois vraiment pas comment ils pourraient laisser échapper ce titre maintenant.
Bien, Julien, on va leur trouver Eric Salio, balle de match entre Tsitsipas et Nadal, Eric.
Il vient d'en sauver une troisième, Rafa Nadal, sur une amortie très audacieuse, et Tsitsipas a vraiment failli la remettre puisque sa balle a vraiment atterri en haut du filet. Nadal semblait se désintéresser, il était sûr que son amortie était gagnante, et vraiment Tsitsipas a failli la remettre. Donc trois balles de match sauvées par Nadal, on est toujours à 5-3 40.
Merci Eric, pardon Julien. Tiens Julien, juste un tout petit mot, il reste même pas une minute là, il y avait les playoffs aller, les demi-finales aller des playoffs, oui, pour la montée en première ligue. Le Leeds de Bielsa s'est imposé 1-0 face à Derby County, hein.
Et à l'extérieur en plus, à Derby, donc avant le match retour qui sera mercredi soir à Leeds. C'est vrai, c'est une grosse performance de la part de Bielsa et de son équipe qui ont été très performants, qui ont très bien joué encore une fois collectivement. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, Aston Villa s'est imposé 2-1 contre West Brom dans l'autre demi-finale de play-off. Match aller également avant le retour mardi soir pour eux deux aux Hawthorns entre West Brom et Aston Villa dans ce Derby des Midlands. Donc quoi qu'il arrive, on aura une super finale à la Wembley pour la montée en première ligue dans 10 jours.
Mais ils les ont mangés, hein. Leeds a mangé, les a mangés. Et puis c'est Roof qui marque, donc ils ont bien suggéré la suspension de Bamford. Là, je pense que c'est plutôt très bien parti, hein. Et je sais pas si t'as. Ouais,
Stop, ouais. On y va, les gars. C'est fini. Okay. Merci Julien, en tout cas. Et on te retrouve demain.
Merci,
Julien. Ciao, Julien. Eric Salio, très vite. Je crois qu'il y a encore une balle de match. Hein.
Quatrième, on l'a vu. Quatrième balle de match pour Nadal, c'est fait. Tsitsipas qui élimine Rafael Nadal. Quel exploit de Stefanos Tsitsipas. 6-4, 2-6, 6-3. Fin de match hallucinante. Et Nadal qui mord une nouvelle fois la poussière en 2019 sur Terre. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup trop. Je ne sais pas. Mais son statut de favori pour Roland est peut-être remis en cause. Donc finale demain entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic. Totalement inattendu.
Merci beaucoup Eric. Voilà, pile poil. Ça, c'est ce qu'on appelle. Voilà, Jérôme Thomas a demandé à ce que le match de tennis se finisse à 23h58. Voilà qui est fait. Bonne soirée à toi Eric.
Et
donc Tsitsipas qui sort Nadal en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. Merci beaucoup mon cher Jonathan McCarthy.
Merci à toi Nico.
Merci mon très cher Kevin Diaz.
Merci à vous.
Merci à toutes les équipes techniques de Daniel Torres. Merci à Jérôme Thomas. Merci la France. Vive la République. À demain. Bisous. Ciao.
RMC. L'After Foot.